Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir de deux choses. Que, premièrement, on ne va pas parler de communauté. En fait, j'ai fait le vœu de ne pas prononcer le mot communauté. Donc, non, à partir de maintenant. Donc, en fait, voilà, ça ne parle pas de ça, de ce dont on parle tout le temps, là. Et la deuxième chose dont je voudrais éveiller votre attention, c'est moi je suis une littéraire, je suis pas du tout une philosophe, etc. Donc ne faites pas tellement attention à ce que je dis, parce que c'est pas tellement ce que je dis qui compte, mais c'est ce que fait ce que je dis. Et ce que fait ce que je dis, c'est que ça va aller tendre des liens entre différents textes de temps et d'espace étrangers l'un à l'autre. Et voilà ce qu'on va faire, enfin ce qu'on va expérimenter ensemble. Je vous emmène comme pour un tour de manège autour de ce mot dont on ne va pas du tout parler, parce que c'est un bloc voilà, qu'on nomme comme ça de haut, qui me semble, moi, insaisissable. Il me semble que ce dont on parle, justement, n'est pas, et que il faut y renoncer. Mais, pour pas désespérer, parce qu'il faut y renoncer sans désespérer, il faut essayer de lire les signes actifs qui vont dans le sens de cette... Donc, voilà, je ne dirai pas le mot. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous proposer. Alors, on va tourner, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui vont revenir à chaque fois. À chaque fois, ça va revenir. C'est une forme d'écriture, au fond. On va démarrer par cette fameuse corde à singe, parce que ça pique la curiosité de pas mal qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel rapport avec Moby Dick et tout ça ?» Et donc, je vais vous lire un extrait du chapitre de Moby Dick, d'Herman Melville, qui s'intitule « La corde à singe ». Ah, là, je fausse les lunettes, et on y va. Dans le tohu-bohu du dépeçage de la baleine, c'est un va-et-vient incessant pour l'équipage. Ici, on a besoin de matelots et en même temps là. Impossible de rester à un endroit fixe, car il faut être partout à la fois. Il en va à peu près de même pour celui qui veut décrire la scène. Il nous faut à présent retourner un peu en arrière. On a dû remarquer que lorsqu'on prospecte dans le dos de la baleine, on fixe avant tout un crochet dans le trou taillé par les seconds. Mais nous n'avons pas dit comment il l'avait été. Ce fut mon copain Quickweg qui, en qualité de harponneur, eut l'honneur de descendre sur le dos de la baleine pour ce travail spécial. Souvent, les circonstances demandent que le harponneur reste sur la baleine jusqu'à ce que l'opération du dépeçage soit terminée. Remarquez que la baleine reste presque entièrement submergée, sauf les parties sur lesquelles on est en train d'opérer. Donc, à quelques 10 pieds au-dessous du niveau du pont, le pauvre harponneur patauge, moitié sur la baleine, moitié dans l'eau, tandis que la vaste masse roule comme une meule de moulin sous lui. En l'occurrence, Quickweg était là, vêtu à l'écossaise, chemise et chaussettes, et à mes yeux, ça lui allait très bien. Personne n'était plus à même que moi pour en juger, comme on va le voir. Étant l'homme d'avant du sauvage, c'est-à-dire celui qui tient la première rame de son canot, mon plaisant devoir était de le servir, tandis qu'il faisait le gribouille sur le dos de la baleine morte. Vous avez vu un Italien, joueur d'orgue, tenir un singe par une longue corde? Du flanc roide du bateau, je tenais Quickweg exactement de la même façon, par ce qu'on appelle en termes de pêcherie une corde à singe, qui était attaché à une forte bande de toile entourant sa taille. C'était une besogne dangereusement rigolote pour tous deux, car avant d'aller plus avant, Il faut dire que la corde à singe était attachée aux deux bouts solidement à la ceinture de Queequeg et solidement au cuir étroit de la mienne. De sorte que, pour le bien ou le mal, nous étions à ce moment mariés ensemble et, au cas où le pauvre Queequeg se serait enfoncé pour ne plus remonter, l'usage et l'honneur voulaient qu'au lieu de couper la corde, je devais me laisser emporter par elle. Ce long lien siamois nous unissait donc. Queequeg était mon jumeau inséparable et je ne pouvais d'aucune façon m'affranchir des responsabilités dangereuses inhérentes à ce lien de chanvre. Ce sentiment me tenait si fort que, métaphysiquement, tandis que j'épiais attentivement ses mouvements, il m'apparaissait distinctement que ma personnalité était devenue double, que mon libre arbitre avait reçu un coup mortel et que l'erreur ou la malchance d'un autre pouvait me valoir, à moi, innocent, un désastre ou une mort imméritée. Je voyais ici qu'il y avait quelque interrègne dans la Providence, car son équité aux mains en balance n'aurait jamais dû permettre une aussi grossière injustice. En y réfléchissant, tandis que de temps à autre, d'un coup sec, je lui ai évité le coincement entre la baleine et le bateau, en y réfléchissant, dis-je, je vis que ma situation était exactement celle de chaque être qui respire. Seulement, dans la plupart des cas, existe une connexion avec pluralité d'autres êtres. Si votre banquier sombre, vous sombrez. Si par erreur votre pharmacien met du poison dans vos pilules, vous mourrez. Il est vrai que vous pourrez rétorquer qu'en prenant d'excessives précautions, vous pouvez peut-être échapper à ces mauvaises chances, ainsi qu'à des multitudes d'autres dans la vie. Alors, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que il y a deux hommes qui sont reliés l'un à l'autre. Ces deux hommes sont indépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas de contrainte entre eux. Ils sont jumeaux, dit le texte, mais en réalité, ils sont distincts l'un de l'autre. Et à distance, d'ailleurs, parce que sinon ça ne va pas marcher, la corde à singe. Donc on a un être double, mais en même temps fait de deux êtres qui restent complètement autonomes, qui restent distincts l'un de l'autre, qui sont comme ça à distance. Et ça se passe dans un interrègne dans la Providence. Alors ça, c'est une plaisanterie de Melville, évidemment, qui fait jouer un peu l'anxiété d'Ishmaël, qui pense à ce sentiment d'injustice. Mais, en fait, quand on prend au sérieux, c'est que, oui, cette corde à singe, elle prend tout son sens, parce que Dieu s'est retiré du jeu, et que aucun des deux hommes n'a un destin écrit d'avance, mais que chacun des deux est entièrement responsable de sa possibilité d'être. Et alors là, je me sers d'un article sur la dette, le fonctionnement de la dette dans les cultures indiennes. Et alors, bon, il faut que je vous lise la citation de manière exacte. C'est un chercheur, un anthropologue qui s'appelle Jean-Claude Gallet, et qui écrit à propos du système des castes et de dettes en Inde. Il écrit « La relation de créancier à débiteur porte en elle cette idée que la vie est enfermée dans les échanges entre les hommes. La dette, écrit-il, c'est de la vie déposée chez autrui. » Et je trouve que dans cette corde à singe, on a la matérialisation de ce lien, qui est un lien complexe, qui est une co-responsabilité et qui est cette vie de l'un déposée chez l'autre. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le texte le dit, le code des baleiniers veut que on assure le harponneur qui est en train de planter ce crochet au péril de sa vie. Mais le code du Pequod, lui, va plus loin que le code en usage dans le métier de baleinier, de pêcheur de baleine. Le code de l'honneur du Pequod veut que ce lien, en cas d'accident du harponneur, on ne le coupe pas. Donc on a un lien qui est intangible et qui restitue la réalité de la dette. Parce que si le harponneur est en bas et risque sa vie, c'est parce que ça dispense l'équipage et donc Ishmaël de risquer la sienne. Donc là, on a vraiment cette espèce de vie qui circule de l'un déposé chez l'autre et de l'autre déposé chez l'un. Alors là, je regarde ce que j'ai à vous dire encore de ce texte-là. Oui, alors oui, Melville dit « Oui, mais bon, c'est un peu la même chose que dans tout lien social, quoi, dans toute vie en société, c'est-à-dire que vous dépendez de votre banquier, de la faillite de votre banquier, on c'est ça, voilà. » Mais en réalité, non. Je crois que c'est pas comme ça et c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que ce lien-là, s'il entre dans une espèce de mécanique fonctionnelle, il n'a aucun sens. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un sens métaphysique, c'est vraiment employé dans le texte, parce que Ishmaël a consenti à se plier à cette règle d'honneur du Pequod qui met en gage sa propre vie. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ce code d'honneur, en fait, il signifie quoi? Il signifie que la vie du harponneur, même s'il est un sauvage comme Queequeg, parce qu'il est un sauvage dans Moby Dick, même s'il est un sauvage comme Queequeg, cette vie-là, elle a exactement la même valeur que la vie des hommes d'équipage qui restent au sec sur le pont du bateau, et qu'on va pas, pour des raisons pratiques, de gagner du temps, de faire plus d'huile de baleine, on va pas simplement couper la corde en cas de pépin. Mais que le Ishmaël a mis en gage sa propre vie pour tenir la corde et la sécurité de son compagnon et jumeau de condition, Queequeg. Donc ce sont deux hommes libres l'un de l'autre qui consentent à mettre en gage leur propre vie pour reconnaître la valeur de l'homme qui s'agite au bout de la corde à singe. Ça, c'était pour le premier, à peu près pour le premier tour de mon manège. Alors maintenant, ah oui, pardon, il y a quand même une autre petite chose, j'avance un peu vite, que je voulais vous dire là-dessus, c'est que il y a quelque chose dans cette corde à singe aussi qui me touche, c'est que ça, son sens, au fond, à ce lien de corde, c'est de contredire la solitude, l'isolement de Queequeg en bas du bateau. Parce que ce qui va faire le plus grand danger, c'est qu'il soit justement isolé et donc pas compris dans la même humanité, dans une valeur du même ordre que ceux qui sont au sec et donc protégés par le bateau. Donc c'est un lien paradoxal, ça ne fait pas collectif, ça ne fait pas dépendre l'un de l'autre, mais ça fait exister l'un pour l'autre. Et là, on va passer, donc moi j'avais appelé cette partie un interrègne dans la Providence, et maintenant un autre passage de Marou, ça sera une réalité nouvelle. Et là, je voudrais vous parler d'une dame, une grande dame à qui vraiment c'est un honneur de rendre hommage. Elle s'appelle Pannonica de Königswarter. Alors, bien sûr, elle est très connue, tout le monde la connaît. Non, personne dans cette salle. Si, quand même, quelques personnes. Oui, qui est-ce qui parle, là? Ah, merci. Oui. Alors, Pannonica de Königswarter, c'était une des héritières de la famille Rothschild, donc très très grande dame, une folle furieuse qui s'est engagée avec son mari dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà, type de personnage, Et à Paris, elle découvre la musique de Thelonious Monk, elle découvre Monk, et elle tombe red dingue de Monk, je pense, et surtout, et aussi, ou en tout cas, enfin, de la même façon, de sa musique. Elle change complètement de vie. Elle va s'installer à New York. Elle a une suite au Stanhope Hotel. Et dans cette suite est mort Charlie Parker, qui a trouvé refuge chez elle. Et dans cette suite, évidemment, tout le monde se réunit pour faire des bœufs, des trucs épouvantables, jusqu'au jour où vraiment le Stanhope Hotel, ils en ont eu marre et ils l'ont viré. Bref, c'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter. Au volant de sa Bentley, car quand même, elle a été, entre autres anecdotes, mais vous regarderez ça sur Wikipédia ou autre, elle a été bien sûr mise au banc de sa famille et donc il lui avait un peu coupé les vivres. Mais elle avait quand même une Bentley, une Rolls, enfin elle avait quelques moyens, et elle faisait les arrières sorties des boîtes de jazz pour récupérer ses musiciens noirs, junkies, limite clochards quelquefois, sans argent, etc. Et elle a milité, ça c'est vraiment une chose très précise qui est intéressante de savoir, c'est une dame qui a milité pour l'abolition des cartes pour les musiciens de New York, car figurez-vous qu'ils étaient encartés comme les prostituées, et ce qui fait que ça les mettait à la merci de la police, qui, pour n'importe quelle raison, je rappelle qu'on est aux États-Unis dans les années 50 à peu près, années 50, années 60, mais on est sous le régime des lois raciales. Et donc, nombre de musiciens, dont Monk d'ailleurs, ont été interdits de bosser. Donc imaginez, c'est-à-dire sans vraiment ressources et sans possibilité de faire leur musique. Donc elle a essayé de militer pour abolir cette carte, cette pratique. Voilà. Bref. Donc au volant de sa Bentley, et elle allait, voilà, et elle recueillait tous ces types. Et alors il y a juste peut-être un petit récit que je voudrais évoquer. Un jour, elle se fait arrêter, bien entendu. Imaginons donc cette femme blanche, bras dessous, avec Monk. Il faut voir qui était Monk. Monk, c'était un géant, qui avait l'air complètement, presque demeuré, avec toujours un galurin complètement impossible, un type qui faisait peur, c'est sûr, quoi. Donc, et imaginez Monk dans cette Bentley, avec cette femme blanche. Elle se fait arrêter, ils se font arrêter, et il y avait de la marijuana dans la boîte à gants de cette voiture. Et donc, ils se font vraiment arrêter par la police. Et Monk se fait molester. Et il paraît, bon, ça, voilà, je vous restitue ce que j'ai lu, hein. J'y étais pas. Mais l'anecdote est importante pour moi, vraiment. Il paraît que Panonica hurlait pas sur les mains. Alors, voilà, je voudrais partir de là pour dire... Alors après, par rapport à Monk, Panonica de Königswarter a racheté ensuite, après le fameux Stanhope, la maison de Joseph von Sternberg. Dans le New Jersey, on voyait tout Manhattan de sa maison, et elle a recueilli Thelonious Monk et sa femme Nelly à la fin de la vie de Monk. Elle lui a acheté un magnifique Stanway dont il n'a plus du tout fait usage, puisque Monk a terminé dans le mutisme et musical et même verbal, puisqu'il ne parlait plus. Donc il faut imaginer ce grand géant mutique qui passait ses journées à la fenêtre et a joué un peu au ping-pong. Voilà. Et voilà, donc pas sur les mains. Panonica, c'est pas la charité, quoi. C'est pas la grande bourge qui va aller faire le bien des pauvres. Elle a jamais cherché à les faire décrocher de leur dope. Elle a jamais cherché leur bien, à leur faire leur bien. C'est pas non plus le Caire. Hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc très à la mode et qui gagne depuis l'université les milieux de l'entreprise. On peut pas parler d'entreprise aujourd'hui sans qu'il y ait quelque part la politique du care ou l'éthique du care. Alors care, C-A-R-E, c'est-à-dire l'attention à l'autre, le soin de l'autre, et qui, sous les paillettes flashy de la modernité, vient prendre la place de ce qui paraît finalement obsolète, et qui est la responsabilité mutuelle. Et là, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. en particulier en allant chercher Stieg Degerman, d'ailleurs, qui parle des grandes organisations qui déresponsabilisent les hommes les uns vis-à-vis des autres, et même de l'ancien mari de Hannah Arendt, Gunther Anders, qui lui aussi réfléchit sur la déresponsabilisation mutuelle. Mais voilà, là vraiment, ça serait vraiment pas possible ce soir. Donc on va rester avec Panonica, pas la charité, pas le care, mais la gloire d'un ami. Alors pas tellement non plus la gloire médiatique, mais la gloire de son corps. Les mains de Monk, qui sont le siège de son art, mais aussi le lieu du déni de son génie et de l'oppression. Et le déni aussi à travers le personnage de Monk, mais le déni de ces musiciens qui étaient en train, depuis la cave, de bouleverser profondément et irrévocablement la musique occidentale. Alors, pour comprendre... Alors, donc, ni charité, ni care, en fait, Panonica a aimé. Et c'est ça qui est à la fois qui m'émeut profondément, mais c'est sa grandeur. Et pour comprendre la portée, la très grande portée de cet amour de Panonica, je vais faire un détour. Un détour par... Alors là... Attention, c'est sportif comme grand écart. On va passer chez Anders Nygren. Anders Nygren, c'est un théologien luthérien suédois, voyez un peu. Et donc, dans un livre monumental, en trois énormes volumes, où il fait l'histoire théologique de l'amour chrétien, en établissant une dialectique, une espèce de confrontation, dialogue avec l'éros, qui est plutôt l'amour grec. Et donc son livre s'appelle Eros et Agapé, la notion chrétienne de l'amour et ses transformations. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Agapé. Donc Agapé, c'est l'amour du prochain. Et je voudrais saluer Panonica en prenant les quatre points caractéristiques de l'agapé pour Anders Nygren. Premièrement, l'agapé est spontanée, elle n'est pas motivée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte, on n'est pas contraint d'aimer d'agapé. Et il n'y a pas de motif. Alors donc, Panonica n'était pas contrainte. On retrouve Queequeg et Ishmael qui sont indépendants l'un de l'autre. Il n'y a aucun lien de dépendance qui puisse faire contrainte l'un avec l'autre. Là, c'est pareil pour agapé, pour Panonica. Mais aussi, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire que ni Charlie Parker, ni Thelonious Monk, ni les autres jazzmen qu'elle a aidés n'étaient redevables à Panonica. Ils n'étaient pas en dette vis-à-vis de Panonica. Et même, d'ailleurs, je pense que Panonica était en dette vis-à-vis d'eux, parce que sans eux, elle aurait été manquante de leur musique. Elle aurait été dans sa propre insuffisance, faute de cette extraordinaire musique qui l'emportait, elle, au-delà de son être. Donc je pense qu'en réalité, c'est elle qui était en dette vis-à-vis d'eux. Deuxième point, l'agapé est indépendante de la valeur de son objet. Il faut, écrit Nygren, radicalement exclure toute idée de mérite. Alors, les musiciens que Panonica a aidés, on ne peut pas vraiment exactement dire qu'ils ont mérité son aide. C'est pas un mérite, la musique. C'est dans une autre sphère. C'est complètement autre chose. Donc, la beauté de la musique, c'est une sorte de... la corde à singe, voilà, reprenons l'idée de la corde à singe. Au fond, c'est pas parce qu'il méritait, c'est parce que cette beauté, cette espèce de fracas d'une musique inouïe à cette époque-là, c'est ça, c'est cette beauté qui avait enroulé la corde à singe autour du corps de Panonica. C'est pas le mérite personnel des gens qu'elle aidait. Et puis, troisième point, l'agapé est créatrice. Nigren dit, elle constate pas les valeurs, elle les crée. C'est-à-dire qu'elle prend pas pour objet des valeurs reconnues. Elle reconnaît dans son objet la valeur. C'est cette femme richissime, de grande famille, blanche, qui va, par son amour, reconnaître le génie de Monk et la grandeur des autres musiciens qu'elle a aidés. Ah oui, et autre chose, elle crée, l'agapé crée, Panonika crée, en aimant Monk, quelque chose d'impossible, puisqu'on était dans les lois raciales, et que, évidemment, c'était impossible dans cette société que de se promener main dans la main entre noir et blanche, et pourtant, Panonika le fait. Et elle fait plus. Elle fait quelque chose qui est de toute beauté aussi. Elle crée un autre monde. Elle crée un monde, elle crée un monde précaire, c'est sûr, éphémère, malheureusement, mais ce qu'elle crée, c'est un monde habitable par Thelonious Monk. Et franchement, s'il y a une utopie que vraiment je voudrais défendre un jour, ce serait un monde habitable réellement par Thelonious Monk. Et enfin, elle s'est tenue, non pas enfin parce qu'il y a un dernier point mais dont je parlerai très peu, elle s'est tenue à hauteur de la mort. Pas tellement parce qu'elle a hébergé Charlie Parker à sa mort, mais elle s'est tenue à hauteur de la mort parce que la mort, la nuance de folie et de mort était interne à Thelonious Monk, qui a eu une personnalité vraiment à la lisière, toujours à la lisière du silence, mais toujours aussi à la lisière de quelque chose qui échappait à lui et qui échappait à la société. Et Panonika a tenu ça. Et ce qu'elle a fait donc de très beau, c'est qu'elle lui a permis la musique. Mais elle a fait quelque chose d'encore plus beau, et de plus terrible pour elle, je pense, c'est qu'elle lui a permis aussi, à la fin de sa vie, le silence. Et enfin, dernier point de Nigren, c'est Agapé crée la communion. Alors là, je ne vais pas en parler, parce qu'il faudrait prononcer le M que je ne veux pas prononcer. Elle crée ça en Dieu. Et juste, je voudrais dire que Agapé, pour Panonika, pour cette histoire de communion, il y a quand même des témoignages qui sont des témoignages, qui sont les morceaux qui portent le nom de Panonika. Il y en a pléthore. Donc ça veut dire que vraiment, il s'est créé quelque chose de ces affinités entre ces gens qui ont aimé Panonika en retour, et même ceux qui n'ont pas directement connu et qui continuent à lui dédier des morceaux. Alors maintenant, autre tour, autre univers et autre texte. Et là, je voudrais vous parler de deux romans qui ont des affinités l'un avec l'autre. Et ces affinités correspondent aux affinités entre les deux auteurs de ces deux romans. L'un, c'est « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry. Et le deuxième, c'est « Un cœur pour les dieux du Mexique » de Conrad Aiken, qui est beaucoup moins connu ici par les Français. Conrad Aiken, c'est un... Alors là, je dois avoir... Attendez, parce que je vais vous faire les choses un peu propres... Voilà, Conrad Aiken, 1889-1973. Conrad Aiken, ça a été un ami vraiment tout au long de la vie de Malcolm Lowry. Un des deux auteurs que vénérait le jeune Malcolm Lowry, au point d'ailleurs qu'il il a toujours craint d'avoir plagié l'un des romans de plus grande notoriété de Conrad Aiken, qui a été publié sous le titre de « Au-dessus de l'abysse ». Vous trouvez ça en imaginaire chez Gallimard. Et Malcolm Lowry a toujours craint d'avoir plagié ce livre-là dans son premier récit qui est « Ultramarine ». Mais là, je vais vous parler d'un roman qui a été publié en 1939, donc après au-dessous du volcan, et qui s'appelle donc Un cœur pour les dieux du Mexique. Les deux récits au-dessous du volcan comme Un cœur pour les dieux du Mexique sont des récits de la limite. Alors, les deux romans racontent un trio, donc trois personnages, qui sont reliés autour d'un personnage central qu'il s'agit d'accompagner dans un voyage au pied du Popocatépetl, du volcan, dans l'espoir, sans espoir, mais dans l'espoir quand même, d'une régénération. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, le trio est constitué et relié par la mort, puisque dans les deux romans, il y a une sorte de mort programmée, alors surtout dans Un cœur pour les dieux du Mexique. Alors, je vais juste vous dire une ou deux choses sur au-dessous du volcan, mais je m'attacherai surtout à Un cœur pour les dieux du Mexique. Alors, au-dessous du volcan, je voudrais juste vous mettre l'accent sur deux petites choses. Il y a le consul, le personnage du consul, qui est le personnage central, alcoolique, qui va comme ça se perdre dans une déambulation, quitter donc Hugues, son frère, et Yvonne, sa femme, qui est juste de retour. Et donc tous trois partent pour une sorte d'expédition vers un petit village, le volcan, etc. Et en fait, le consul va s'égarer et va mourir. Enfin, je vous redirai ça tout à l'heure. Il fait une sorte de prière, et sa prière c'est « Accordez-moi de descendre plus bas ». Et il fait cette autre prière, il dit « Accordez à Yvonne son rêve, une vie nouvelle avec moi, une vita nova », c'est-à-dire la régénération de sa possibilité d'aimer. Et dans au-dessous du volcan, bien sûr, vous avez le récit, etc., mais vous avez une multiplicité de signes périphériques. C'est des slogans, c'est des affiches, c'est des phrases qu'on entend et qui reviennent, qui sont des leitmotifs comme ça, et qui donnent en réalité le sens profond du roman. Et ici, la clé, l'une des clés est détenue comme ça par un slogan qui revient tout le temps, et qui est, alors là, pardon pour la prononciation, je vais essayer de faire de l'espagnol, « No se puede vivir sin amar ». C'est-à-dire, non pas on ne peut pas vivre sans amour, mais on ne peut pas vivre sans aimer, et tout l'enjeu du récit de « Au-dessous du volcan », c'est la régénération du consul, c'est-à-dire la régénération de la possibilité de l'amour pour lui. Il y a une scène clé qui est la scène d'un Indien. Donc ils partent, etc., en autocar et tout ça. L'autocar s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a un Indien qui est en train d'agoniser sur le bord de la route. Et on descend, tout ça. Yvonne détourne les yeux parce qu'elle ne supporte pas le sang. Hugues veut porter secours, mais le consul, son frère, l'arrête en lui disant que la loi mexicaine interdit qu'on touche à un blessé dans ces circonstances-là. Et là, la référence, le signe comme ça, qui commence ce chapitre-là, c'est une affiche de film, c'est l'affiche d'un film qui est donné en espagnol dans au-dessous du volcan, Las Manos de Orlac. En fait, c'est un film qui est une adaptation d'un roman fantastique d'un romancier français qui s'appelle Maurice Renard, et qui est d'ailleurs un magnifique roman, Les Mains d'Orlac. C'est un pianiste qui, à la suite d'un accident, a été amputé des deux mains, donc greffé de deux mains d'assassin. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui porte des mains d'assassin. Inutile de vous dire que fantastique, ça va le hanter, etc. Donc on a ce chapitre où il est question de la responsabilité mutuelle, qui commence par l'histoire, enfin la référence à cet homme qui porte des mains d'assassin, et qui raconte que on s'est abstenu d'agir pour porter assistance à un Indien en train de mourir sur le bord du chemin. Et ça fait aussi écho à des conversations qui sont dans le récit d'au-dessus du volcan sur la guerre d'Espagne et deux positions qui consistent soit de la part du Hugues à participer, à prêter assistance, et de la part du consul à justement avoir une position de retrait. Et il y a quelque chose qui tourne autour de cet acte inaccompli qui agit en faveur du néant et non pas en faveur de l'humanité. Un cœur pour les dieux du Mexique, c'est une histoire d'un trio. Trois personnages, deux hommes et une femme. Le personnage central, c'est la femme, une très jeune femme qui est très rayonnante, pleine de vie, mais qui vient d'apprendre qu'elle est cardiaque et qu'elle n'a plus que pour très très peu de temps à vivre. Alors, les deux hommes qui sont amoureux d'elle, son ami, Blomberg, qui est aussi le narrateur, et Gil, qui est son fiancé, vont ils vont l'accompagner, ils vont partir tous les trois traverser les États-Unis, traverser le Mexique et aller vers le Popocatépetl, parce que au Mexique, on peut divorcer facilement. La jeune femme est mariée, donc elle doit divorcer pour se remarier. Mais bien entendu, le but, ça c'est un but apparent, mais le but véritable, c'est encore une fois le mythe du volcan qui est la régénération. Et là, ce qui commence commence le récit, c'est la mort de cette jeune, la mort annoncée, la mort programmée de cette jeune femme. Et donc on a la mort qui est à la fois ce qui réunit ces trios et à la fois ce qui inévitablement et à bref terme va les séparer. Et là, je vais vous lire un extrait, si je retrouve mes lunettes, un extrait de Un cœur pour les dieux du Mexique. Il faudrait que je retrouve mon bon extrait. Mais en fait, c'est celui-là. Elle va mourir. Expliquez-vous. Elle va mourir. Les médecins lui ont donné 6 mois, 1 an tout au plus, et probablement beaucoup moins. Non, vous ne pouvez pas croire ça. Alors là, pardon, mais la traduction peut-être à refaire. Vous ne pouvez pas croire ça. Si, le cœur. C'est au cœur que ça se tient. Elle n'est pas entrée dans les détails, elle refuse d'en parler, sauf le fait essentiel. Elle a eu la confirmation définitive avant-hier, m'a appelée, et je suis allée dans la maison de Hull Street. Vous savez qu'elle habite une petite maison de bois dans les bas quartiers à côté d'une cimetière de Cops Hill, et mon Dieu Kay, je peux vous jurer que je ne veux plus jamais passer une nuit pareille de ma vie. » Il s'interrompit puis abruptement pour contrôler sa voix qui avait tendance à s'étrangler un peu. « Que c'est étrange, pensa-t-il, de découvrir que sa voix tremble elle-même en de tels moments. » Puis reprit très lentement, presque solennel. Une nuit entière, je vous prie de me croire, à regarder une femme adorablement belle et d'une merveilleuse intelligence, brutalement aux prises avec l'idée de la mort. Et gagnant la bataille par le Christ, elle ne s'est pas révoltée, elle n'a pas pleuré, bien que je l'ai vue pleurer souvent par le passé, elle est devenue une question faite femme. La souffrance incarnée. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais l'expression de son visage. C'était comme si elle regardait autour de moi, à travers moi, essayant de découvrir quelque chose là derrière, ou peut-être même y voyant quelque chose. C'est bizarrement puéril, un regard persistant, égaré, blessé, incompréhensif, mais toujours interrogateur, comme si pour elle, j'étais devenue l'unique preuve vivante d'un univers de malheur ou de mystère qu'elle refusait d'accepter. Vous saisissez ce que je veux dire ? Jesus Christ ! Oui, le pourquoi incarné de toute tragédie, de tout malheur humain. La nuit entière, c'est ce qu'elle fut, et consciente, bien sûr, c'était ça le plus horrible, que je n'avais pas la réponse, qu'il n'y avait aucune réponse. J'étais le vide, impitoyable et sans réponse. Le cyclone, le piège, le cercueil de sapin, le gibet, l'inutile. Là, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que c'est l'ami qui devient la mort de l'autre. On va faire un autre tour, parce que je vois que le, le temps tourne aussi. Il y a une chose dont je voulais parler, c'est de la guerre de 14-18. Parce que il y a quelque chose d'incompatible entre l'intensité de cette vie qui est donnée par le partage de ces voyages vers la mort et la vie utile, la vie usuelle, régulière que nous menons à l'intérieur des grandes organisations, à l'intérieur d'une organisation sociale qui conforme notre être et notre existence. Et ce qui montre ça, c'est un témoignage complètement paradoxal de deux anciens combattants de 14, Pierre Théillard de Chardin et Jean Paulhan. Alors voici ce que dit Théillard de Chardin. « L'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté. Celui qui monte au secteur laisse d'abord choir à l'entrée du premier boyau le fardeau des conventions sociales. À partir du moment où finit la vie civile, la différence cesse entre le jour et la nuit. » Et Paulhan dit la même chose. « Je ressentais de l'irritation, de la rancune contre un ancien respect de la vie, un attachement au vivant, et les autres sentiments qui nous avaient trompés, puisqu'ils n'avaient pas suffi et qu'il avait fallu que la guerre vînt. Par la légèreté qui en résultait à l'égard des liens consacrés, la guerre était pour nous une sorte d'enfance. » Et Théillard, toujours, « Tous les assujettissements et les cloisonnements de la vie coutumière s'effondrent comme des cartes. » Lorsque ils sont séparés de l'organisme dont ils sont issus, il se passe ce transfert de la vie de l'un dans les autres, et le fait qu'on peut déposer son corps dans un corps collectif, et il se crée cette sorte de fraternité, quand on parle de fraternité d'armes, où les soldats sont devant la mort imminente comme une sorte de même corps ensemble. Ça demande l'abandon, ça demande même le fracas, ça demande de casser ce qui structure la vie régulière. Et je fais la relation avec ce qui préoccupe l'écrivain ou l'artiste, c'est que il y a un conflit entre la cité et l'artiste. L'artiste, ou l'écrivain plus, enfin voilà, va se défaire de la cité pour aller essayer de toucher d'autres sources, des sources peut-être antérieures, pour aller essayer de toucher sa propre énigme. Ce qui fait que tous les pouvoirs vont nécessairement éliminer l'artiste, vont nécessairement lui envoyer la même injonction, qu'elle vienne de la tyrannie ou qu'elle vienne de la démocratie de marché qui va recycler son travail pour le fonctionnement de sa société. Les pouvoirs vont forcément envoyer à l'artiste l'injonction disparaît. Et là, dernier tour, dans un livre de William Gaddis, écrivain, immense écrivain américain, qui a, c'est le dernier texte de sa vie, il était malade quand il a écrit ça, et il a écrit agonie d'agapé. Et ce texte, c'était parti pour être un travail encyclopédique sur le piano mécanique. Et puis, le piano mécanique, c'est le départ de l'industrialisation de l'art, et de l'être, de la culture. Et il y a un monologue comme ça qui commence à se développer et qui est la disparition de l'artiste, l'exclusion de l'artiste de l'existence, puisqu'on peut faire de la musique sans artiste, etc. Et le vieillard, qui est le personnage central de ce texte, développe un monologue proliférant, comme son cancer, qui diffère au fur et à mesure qu'il prolifère la disparition de l'artiste, puisqu'il émet encore, puisqu'il parle encore, il adresse encore une parole dans cette espèce de monologue proliférant qui reprend toute sa mélancolie, toute son espèce de passion noire de voir l'artiste en train de disparaître. Et en même temps, parallèlement, ce que fait Gadis, ce que fait le livre, c'est que, oui, l'auteur, Gadis, s'efface dans le livre une fois qu'il est accompli. Et là, on a le contrepoint de la corde à singe. C'est qu'on a un personnage qui reste dans son manque, dans son insuffisance et dans son isolement, qui va jusqu'à donc justement la disparition. Et pour terminer, je voulais vous lire quelques pages de ce que je fais, c'est-à-dire mon dernier ouvrage, Le paradis entre les jambes. Alors, c'est pour vous présenter en deux mots ce livre, c'est un de mes seuls titres autobiographiques. C'est un livre qui concerne une période de ma vie où j'ai rencontré l'auteur d'un crime terrible, puisque c'est un de mes camarades d'université qui a tué et mangé une de mes camarades d'université. Et j'essaie d'examiner la catastrophe que représente cet acte au contact de ma vie. Alors, je voudrais simplement, voilà, pour signer ce propos que j'ai tenu devant vous, vous faire entendre quelques lignes. Je ne vais pas me lancer sans les lunettes. Tout ramène la littérature à l'utile. Tout la dispose à avoir des visées, à la recherche de quelques bénéfices, ne serait-ce qu'un entourage, qu'une entente qui définisse un monde partageable, tandis que j'ai ce goût du tumulte, de la brutalité, des formes fâchées avec le liant, avec le lien, fâchées avec tout lien, sans prévenance, heurtées, contraires au lécher qui entretient l'illusion d'un monde compatible avec nos images si soigneusement définies. Est-ce la noirceur, est-ce la brutalité par elle-même qui répugne, ou est-ce qu'elle provienne d'une femme? J'ai le paradis entre les jambes, à condition d'y consentir. Chacune de mes phrases est écrite pour m'extraire de ce consentement, parce que ce consentement est acquis à la naissance, prononcé au-dessus du berceau par mille et une marraines dont la chaîne, perdue dans la nuit des temps, n'a toujours pas trouvé le moyen de se rompre. J'écris mes livres à la chandelle qui pend du nez du chinois travesti place Voltaire. Morveux, baveux, sans parole, il fait la manche en mini-jupe plissée et en chaussettes jacquard, mon incompréhensible semblable, tendant une main fermée sous le menton des gens qui passent. Puisses-tu, chinois, provoquer la gerbe des délicats? C'est pour l'humaine odeur que j'ai choisi la littérature, pour retrouver dans mon gosier ma fureur de nouveau-né, ma panique au contact de l'air, par fidélité à cette liberté que j'ai prise à 11 ans aux zones franches de ma ville, aux fruits verts que leurs arbres portaient, aux culs adultes surpris dans les broussailles, qui nous faisaient baver de rire, qui nous transformaient en chevaux. Je signerai le sexe saumon des exhibitionnistes que le soir débraguetait. Je l'ai vu, et je l'ai touché enfant, d'une main qui n'était pas fière. Je ferai ma petite cosmogonie placée sous le signe de la fourche. Merci.
Ah oui, Vanishing Point. Je présenterai demain. Maintenant, j'ai l'impression que
oui.
Personne n'en peut plus. Là. Je présenterai demain Vanishing Point.
Donc demain à 14h, pour ceux qui le souhaitent, il y aura la projection donc, dans la salle de, à 14h précise donc, de Vanishing Point, qui est un film dont Nicole souhaite partager.
Dans ce film, je retrouve vraiment tous les points sur lesquels je me suis un peu arrêtée. Et c'est un film absolument passionnant, d'une construction extraordinaire, sur un scénario de Guillermo Cabrera Infante. C'est vraiment un film magnifique. Et il y a une énergie extraordinaire dans ce film.
Merci.